la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.
Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices, merci d'être à l'écoute de 48FM pour votre émission littéraire, un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère sur le thème aujourd'hui du girl power, comme dirait Marlène, même si on n'est pas le 8 mars tous les jours, ce n'est pas une raison pour ne pas parler de la littérature féminine, féministe, de femmes qui ont marqué leur temps, mars 1870, La Commune, Paris, Louise Michel, Belle Marion Greener, 1905, New York, bibliothécaire personnelle de J.P. Morgan, puis directrice de la Pierpont Morgan Library. Hansa Schnez, Hongrie, 1943, l'une des 37 personnes juives vivant en Palestine, mandataires qui ont suivi l'entraînement spécial britannique pour être parachutées ou infiltrées en Europe, en vue d'aider à sauver les juifs et servir d'agent de liaison avec l'armée britannique. Catherine Coleman, Gob Johnson, Virginie Occidentale, physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine. Bref, je m'arrête là devant ce monument à la gloire de ces héroïnes oubliées de l'histoire pour en reparler aussitôt avec nos chroniqueuses ici présente. Valérie, salut.
Hello.
Alors cette librairie, elle ouvre quand?
Dès que j'aurai fini les travaux, quand j'arrêterai de traîner à la radio.
C'est très bien. Mais de suite après, tu y retournes alors.
Ok.
Bonjour Marlène, comment ça va?
Salut, ça va.
Attention Marlène, il y a une nouvelle en face de toi.
Oui, on la connaît pas.
Oui, bonjour, je m'appelle Claire, ça fait 6 mois que je suis pas venue à la radio.
Oh mais Claire, on t'avait pas reconnue. Oh, et il y a Pauline aussi qui est là. Salut Pauline, tu nous as ramené la pluie bretonne.
Non, je l'ai laissée là-bas.
Tu l'as laissée là-bas?
Ouais,
bon, on va dire ça alors. Alors, comment ça va Claire? Comment va Rita? Comment va Jules? Comment va tout le monde?
Merci, ça va, ça va. Ouais. J'ai un beau livre là qui s'appelle Rita et le machin, paru chez Gallimard Jeunesse.
D'accord, tu vas en parler aujourd'hui?
Non.
Bon.
Quoique ça peut être une œuvre féministe, peut-être.
Merci de l'avoir pris. Allez, trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet avec Marlène qui ne va pas nous parler d'une, de deux, de trois, mais de 50 héroïnes des temps modernes avec le livre de Sarah Walsh et Catherine Halligan, Les femmes qui ont fait le monde, des femmes plus ou moins connues. C'est un doc jeunesse, Marlène.
C'est ça, puisque comme la thématique c'est les femmes et que c'est rarement mis à l'honneur, eh bien on va commencer par ça. Voilà. Alors, pas facile pour moi de parler d'un documentaire, forcément. Là, c'est un documentaire jeunesse, donc c'est facile d'accès. C'est pour ça que je l'ai choisi. Non, je plaisante. Non, c'est les femmes qui ont fait bouger le monde. Donc, tu l'as dit, il y a 50 portraits de femmes. Elles sont dévoilées par thématique. Donc, je vais juste vous dire les thématiques qui ont été choisies. Croire et conduire, imaginer et créer, aider et soigner, penser et résoudre, espérer et vaincre. Voilà, donc on a un petit peu, dans ces thématiques, un petit peu de... Alors, c'est loin d'être exhaustif, et voilà. Et puis, moi, j'ai découvert...
Non, mettons tout au féminin, Marlène, tu as raison.
D'accord. J'ai découvert quelques personnages féminins que je ne connaissais pas forcément. Après, il y en a dont on a entendu parler.
Marie Curie,
Eva Perron, hop... On a Maria Montessori, enfin voilà, il y en a plusieurs, mais il y en a quelques-unes que je ne connaissais pas. Alors après, il y a des petits coups de cœur que moi j'aimais, et sur lesquels j'ai aimé retourner, notamment. Alors hop, j'ai mis mon truc. Pour une guatémaltèque.
Il y a des bons post-it là.
Hein. Ouais, il y a des post-it, mais du coup, il faut que. Voilà. Rigoberta Menchú, par exemple, qui s'est intéressée à la cause guatémaltèque, voilà. Et qui n'est pas forcément connue, qui a été connue dans les années 95, quand son roman était sorti et qu'il avait fait polémique, puisqu'on l'avait accusé de pas l'avoir écrit et d'avoir inventé toute son histoire. Donc voilà, ça a été un peu.
J'ai passé mon oral d'espagnol sur Rigoberta Menchú.
Ouais, J'ai pas fait exprès. Je savais pas.
J'ai eu 6.
Ah, 95. Vas-y, Marlène, fais
dommage,
la leçon.
Dommage.
On en a encore besoin.
Voilà. Donc après, sur le documentaire, il y a beaucoup, beaucoup... sur chaque page, c'est une femme. Et il y a plusieurs paragraphes de ce qu'elle a fait, de ce qui ont marqué le monde. Mais après, on n'est pas obligé de tout lire si on n'a pas envie. Et on peut vraiment se concentrer sur ce qu'elle a fait, les moments qui ont marqué son histoire ou ce qu'elle a fait pour faire bouger le monde. Parce qu'à chaque fois, il y a voilà, un monde qui bouge et ça dit vraiment ce que ça a soulevé comme polémique ou ce qu'elle a fait ou ce que son travail a réussi à amener, etc. Donc on a aussi, par exemple, la première femme astronaute. Est-ce que vous savez qui c'était, par exemple ?
Moi, je sais. Mais
vas-y.
Je ne dirais pas, c'est Diane Fossé.
Mais non, oh. Ça c'est pour les gaulliers.
C'est les gaulliers.
J'ai fait exprès. Donc Valentina je ne sais pas comment on dit, Terekova.
Terekova.
Donc voilà, donc après bon, c'est... Voilà, donc on découvre l'histoire comme ça de toutes ces femmes et de ce qu'elles ont fait et conduit pour amener un peu le regard voilà, du monde à changer sur certaines choses. À la fin, ce qui est assez appréciable, c'est qu'il y a aussi, donc du coup, tous leurs portraits qui sont repris et qui sont classés par ordre chronologique. Donc, ce qui nous permet aussi de savoir dans quelle époque on est. Et ce qu'elle. Enfin, voilà. Et au fur et à mesure, on remonte. Donc, c'est un livre qui a été publié en 2018. Donc, on n'a pas forcément les dernières femmes qui font bouger actuellement un petit peu les choses. Mais, puisque là, on finit
oublié,
par Malala Yousafzai, mais qui est. Enfin, voilà, Malala, quand même, on en a quand même pas mal entendu parler.
Pakistan ou Afghanistan.
C'est ça, pour le droit des filles à être scolarisées.
Ah, d'accord.
C'est pas elle qui s'est fait asperger d'essence ou je sais pas quoi.
Alors, ils ont fait
plus d'attentats.
Ah oui.
Voilà.
Parce qu'elle allait à l'école, justement. Ouais.
Voilà.
Mais c'est marrant parce qu'on connaît toutes Diane Fossé, on connaît toutes Malala, mais le seul homme ici ne les connaît pas. Ça démontre bien
l'utilité de cette émission.
Mais peut-être que je connais des femmes que tu ne connais pas aussi.
Peut-être. Oui, peut-être certaines.
Nous allons jouer, si tu
ne rentrons pas dans les préjugés.
Alors moi, voilà, il y en a Mirabeille. Moi, je connaissais pas. Voilà, c'est pour ça que.
Donc c'était qui?
Son surnom, c'était Prune. Mirabeille.
Une princesse.
J'ai cru que t'allais nous bluffer, mais non.
Non, je ne la connais pas. Non. La poétesse, non.
Donc poétesse et sainte indienne. Voilà. Donc en fait, voilà.
C'est bien parce que c'est une genre de petite encyclopédie, comme tu disais. On peut y revenir dessus, lire un passage, revenir.
C'est ça. C'est ce que je trouve intéressant.
Il y a eu une grosse série de livres comme ça en jeunesse.
Il y en a beaucoup.
Depuis 5 ans, je pense, à peu près. Là, ça n'arrête pas. Il y a des trucs sympas.
Bah, il y a tellement de femmes oubliées dans l'histoire aussi qu'il y a des livres à faire. C'est pour quel âge tu penses
Je pense qu'on peut commencer au CM. À
ah ouais,
mon avis,
enfin,
parce que c'est assez facile, même si on n'est pas obligé de tout lire. Enfin, moi, je le donne. Mon fils, il est en CM. Je
ouais,
pense
joli,
que sans problème.
Illustré,
quoi.
Ouais,
j'aime beaucoup. Les dessins sont très jolis. C'est Sarah Walsh, les dessins.
Voilà,
illustratrice.
Il y a des fois des petites citations de ce qu'elles ont dit qui ont un peu frappé ou des voilà. Voilà. Hélène Keller, donc là, par exemple, qui était en voilà, qui présentait un handicap et qui du coup. A introduit un peu l'alphabet pour les sourds. Le bras, enfin voilà.
Elle a appris
bras,
à lire la langue écrire des signes. À une sourde aveugle.
Voilà. Ouais. Et la langue des signes provient de pas mal de.
C'était elle, la sourde aveugle.
Non, mais elle a appris à écrire à une sourde aveugle muette, un truc comme ça.
Mais en fait, ils sont à la base de la langue des signes.
Elle a eu un stit et elle-même est devenue un stit.
Elle-même est devenue un stit. C'est celle qui a créé ça pour une élève. Ouais. Voilà.
Mais enfin, voilà, il y a plein de... Il y a beaucoup de thématiques. Voilà, on passe à...
Qu'est-ce qu'il y a ?
Concours.
Est-ce que tu connais Catherine Halligan, Pauline ?
Ah non. Vas parler de Catherine Halligan ?
Eh bien, c'est l'autrice de ce livre.
Ah.
Voilà, c'était juste pour vous dire qu'elle a écrit plus de 100 ouvrages pour enfants. Voilà.
En tant que bretonne, Boudica.
Inconnue au bataillon.
Pourtant, tu vois, reine celte et chef rebelle. Donc, en fait,
oui, j'aurais dû la connaître.
Voilà. Ouais. Enfin, voilà, bon, on en apprend. Il y a des figures connues, mais il y en a des un peu moins. Voilà, donc un petit. Voilà.
C'est très bien.
Le but d'aujourd'hui, c'était pas forcément facile de présenter un documentaire, mais c'était voilà, pour mettre en avant ces femmes qui ont fait avancer l'histoire.
C'est très bien, Marlène. Merci beaucoup. C'est quelle maison d'édition ?
C'est Atier Jeunesse.
Ok. Ouais. Eh bien, on change d'héroïne. J'en parlais en introduction. Belle Marion Greener, plus communément appelée Belle Green. En 1900, au cœur d'une Amérique puritaine et ségrégationniste, elle fume, boit, choisit ses amants et réussit une carrière dont aucune autre femme de sa génération ne pouvait rêver. Elle est d'une modernité inouïe et toute sa vie est bâtie sur un mensonge explosif, mais lequel, peut-être que Claire va nous en dire plus.
Oui, merci pour cette belle intro, Ludo. Alors, donc mon héroïne, qui s'est fait appeler donc, dans sa vie Belle da Costa Green, elle est née en 1879 et elle est morte en 1950. Pourquoi c'est important ? Parce qu'effectivement, ça se situe en pleine période ségrégationniste aux États-Unis et elle est née noire. Il faut savoir qu'à l'époque, il existait un phénomène qu'on appelait le passing. Donc le passing, c'était le fait de se faire passer pour blanc quand on était noir. L'inverse existait aussi, même si vous imaginez que c'était extrêmement rare. Je ne sais pas s'il y a des études qui existent en fait sur le nombre de gens qui ont fait ça et ce qu'ils ont pu vivre, mais à mon avis, ça doit être assez intéressant. Elle, c'en a un exemple très concret. Donc, comment ils ont fait toute sa famille pour faire ça ? Parce qu'évidemment, vous imaginez que c'est pas une aventure qu'on vit tout seul. Arrêtez de me regarder comme ça.
Pardon, non. C'est que Valérie mangeait une chips et je lui ai dit non, ça s'entend à la radio et donc elle est entrée, elle fait comme une hostie, tu sais. Elle a su, mais ça ne marche pas sur les chips, Valérie.
Ah mince, je crois que tu peux la ramollir comme ça.
Ramollir. Désolée, Claire.
Voilà, donc oui, parce qu'il y avait, donc il existait une règle assez affreuse à l'époque, c'était aussi la règle de l'unique goutte de sang. Donc même si vous aviez tous vos aïeux qui étaient blancs, il y en avait un seul dans l'arbre généalogique qui remontait à des siècles, qui était noir, vous étiez considéré comme noir. Donc avec toute l'infamie quelque part qui allait avec, c'est-à-dire la ghettoisation, les mauvais, enfin les mauvais, entre guillemets, oui, voilà, les mauvaises écoles, les mauvais quartiers, etc. Donc eux, ils étaient très tentés de passer de l'autre côté. Ils en ont parlé à l'arrière-grand-mère qui a voilà, était complètement contre, qui a pensé que c'était un vrai péché. Et une fois que... Enfin, ils ont attendu sa mort pour le faire. Donc, en attendant sa mort, ils ont eu tout le temps, en fait, de créer le récit, de s'inventer la vie de blanc, parce qu'il fallait penser à tous les détails, il fallait bien s'imaginer que l'histoire tienne debout. Il ne fallait pas qu'il y ait de failles. voilà. Et donc, un beau jour, la grand-mère meurt et ils décident de le faire. Ils déménagent et ils se font passer pour des blancs. Donc au passage, évidemment, il change de nom. C'est comme ça que de Green, en fait, c'est Greener, le nom de famille au départ. Il le transforme en Green parce qu'à l'époque, c'était un nom très commun aux États-Unis, comme on pourrait Dupont ou Martin, on pourrait dire en France. Et il rajoute un petit da Costa au milieu pour justifier quand même le teint un peu hâlé qu'ils ont, hein, puisqu'ils ne sont pas non plus des Suédois au teint de porcelaine. Donc, il s'invente une origine méditerranéenne, portugaise en l'occurrence, en faisant appeler donc da Costa Green. Elle fait ça, Belle. Je crois que c'est l'aînée de la famille. Ils sont 6 au total. Tous les autres, évidemment, suivent. La mère de famille aussi. Et la prouesse, c'est possible de la... Enfin, je pense qu'il y a encore une prouesse supplémentaire. Il faut savoir aussi qu'il y avait un vrai danger à faire ça. C'était répressible et répréhensible, pardon. Le père donc de Belle, il s'appelle Richard Greener et lui, c'était un activiste pour les droits civiques très très reconnu, qui voyageait dans le monde entier. Et qui était dans les pages des journaux, qui a fait plein de choses en plus notables, comme par exemple être le premier noir à être diplômé d'Harvard. Ensuite, il a été diplomate, notamment en Russie pendant plusieurs années. Voilà, donc vous imaginez qu'avec un père comme ça, en plus, essayer de se faire oublier dans la communauté noire et de se fondre dans la communauté blanche, même, bon, on n'était pas à l'heure des réseaux sociaux, mais quand même, ça, c'était déjà...
C'était compliqué.
Voilà, plus compliqué que pour la moyenne.
Et même pour son père, ça a été compliqué, parce que quand il a appris ça, il a vu ça comme une trahison,
ah
quoi.
Oui.
Qu'elle veuille cacher ses origines, oui. Pour lui, grand activiste, c'était inconcevable.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a un très beau passage d'ailleurs où elle rencontre son père, parce que ça impliquait aussi de complètement couper avec la famille, forcément. Enfin, le reste de la famille, en dehors de la famille nucléaire. Et à un moment donné, bon, bah, elle va retrouver son père et s'en rend compte. Bon, je vous raconte pas tout, mais c'est un beau passage du livre. Il faut savoir que tout ce qui est écrit dans le livre est vrai. L'auteur, Alexandra Lapierre, elle a fait un travail de titan. Elle a consulté mais des kilomètres et des kilomètres d'archives pour écrire ce livre. Et donc, elle le précise hein, dans les notes que ce qui est écrit, c'est vrai, c'est vérifié. Elle l'a, voilà, c'est pas romancé, à part les dialogues. Voilà, donc ils s'installent, ils mènent leur vie de blanc. Et Belle, pendant un été, après bon, des études élémentaires dans le supérieur, elle passe un petit diplôme de catalogage. Hein, tout le monde n'a pas les mêmes étés pour se divertir. Et puis c'est comme ça qu'elle rencontre donc Junius Morgan, qui est le neveu de J.P. Morgan, donc le grand banquier richissime de l'époque. J'ai fait des recherches, la banque existe encore, la banque Morgan. Donc voilà, c'est vraiment une des plus grosses fortunes au monde. Et donc cet homme-là est un collectionneur passionné, un bibliophile, et donc il recherche une bibliothécaire. À l'époque, il y avait encore beaucoup de bibliothèques privées. Donc c'est comme ça que Belle Greene entre en son service et devient une bibliothécaire. Et vraiment, elle devient. Parce que quand elle rentre chez lui, bon, elle a travaillé quelques années dans une bibliothèque publique, je ne sais plus laquelle, où elle a fait ses armes, bien sûr, elle a appris des choses. Mais ce n'est pas la femme qu'elle sera dans les années qui vont suivre. Et c'est elle, véritablement, qui va constituer la bibliothèque patrimoniale que l'on connaît aujourd'hui, qui se visite. Vous pouvez regarder sur Internet, on trouve des photos, c'est magnifique, c'est une bibliothèque du 19e, quoi. Donc vous avez des échelles sur des roulettes, voilà, du matériel en bois, du velours, c'est tapissé, c'est, voilà. Et il y a des trésors, je pense que les trésors qui sont dans la bibliothèque, ça reflète aussi la personnalité de cette femme qui, bon, vous imaginez, il faut quand même du tempérament pour faire ce qu'elle a fait avec toute sa famille, pour passer de l'autre côté, pour s'imposer auprès d'un richissime banquier d'affaires en étant une femme pauvre, noire, avec tout le risque, enfin, les risques journaliers qu'elle prenait. Apparemment, les gens qui l'ont connue l'ont vraiment décrit comme une battante, quoi, comme quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui avait beaucoup de répartie, beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'audace. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à mettre dans sa bibliothèque donc certaines œuvres. Il faut savoir qu'à l'époque, le monde de la bibliophilie, c'était un monde complètement masculin. Donc quand elle arrivait, c'était une Américaine, elle fumait, comme tu l'as dit, elle collectionnait les amants, les voitures, elle roulait vite. Mais elle savait parler aux hommes, hein, et elle savait les mettre dans sa poche, quoi. Et donc, elle a, par exemple, elle a réussi auprès d'un Lord Amherst, un Anglais, qui a une histoire tout à fait, vraiment une triste histoire, je trouve, qui avait laissé les pleins pouvoirs donc à son avoué pour acheter ce qu'il fallait pour entretenir le domaine. Et l'avoué, en fait, avait une passion du jeu, et il a perdu la fortune d'un lord au jeu. Et donc cet homme-là, l'avoué s'est suicidé, et le lord a été obligé de se défaire de ses trésors, ses œuvres d'art, ses tableaux, et notamment ses livres. Et elle a eu un culot immense. Par exemple, elle s'est présentée un jour à son manoir, son château, et elle lui a dit, voilà, je sais que... Donc il faut imaginer, hein, l'homme qui se défait de sa bibliothèque après 40 ans de collectionnite aiguë. Et il voit arriver cette femme qui lui dit, je sais très bien les trésors qu'il y a dans votre bibliothèque, alors moi je suis prête à vous les acheter rubis sur longue, ceci, 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 ceci. Et notamment, donc, ces 17 Caxton. Donc les Caxton, c'est en fait des... sont les premiers livres qui ont été imprimés en Angleterre. Donc, ce sont en plus, voilà, des pièces qui vont être dans un état merveilleux. Donc, elle a ramené ça à son J.P. Morgan et tant d'autres livres. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas parler de Belle Greene sans parler de son amant, qui est donc Bernhard, il l'appelait au début, puisque lui aussi a un parcours complètement hallucinant. Il est né dans un tout petit village en Pologne, il était juif, pauvre également. Et il s'est fait également lui-même grâce à un mentor richissime. Lui, il était spécialiste de l'art italien du Quattrocento. Et ensemble, voilà, ils ont vécu une passion de je sais plus, 20 ou 30 ans, chacun de l'autre côté de l'océan. Donc, voilà, il fallait prendre le bateau pour se retrouver. Enfin, vous imaginez, les étés en Italie. Voilà. Donc, elle a vraiment eu une vie vraiment passionnante. Enfin, voilà, avec de l'aventure, du risque, de la dissimulation, parce qu'elle n'a jamais raconté à personne en dehors de sa famille. Le véritable secret. Il y avait des rumeurs qui circulaient. On se demandait si elle n'était pas la fille naturelle de J.P. Morgan, si elle n'était pas, si elle n'était pas sa maîtresse. Les gens se sont posés des questions, mais bon, le mensonge a fonctionné jusqu'au bout. Et pour que ça tienne, ils s'étaient tous promis aussi, les six enfants, de ne pas avoir d'enfants. Parce que même s'ils se mariaient avec des Blancs, ils avaient toujours peur que la descendance présente des traits caractéristiques trop, trop physiquement africains, quoi. Et cette promesse n'a pas été tenue par l'une d'entre elles. Et, voilà. Et c'est, en fait, c'est... L'enfant qui va naître, c'est lui qui est au cœur de l'ouvrage, quelque part, qui est un peu au cœur de tous ces enjeux. Mais ça, je ne peux pas tout vous raconter. Donc, il faut lire ce livre. C'est passionnant.
Ça a l'air, en tout cas, oui.
Tu peux nous redonner le titre ?
Oui, alors c'est Belle Green. C'est Alexandra Lapierre qui a écrit ça. Et il est disponible en audio-livre. C'est très bien. Ça s'écoute très bien autant que ça se lit. Et donc, vous imaginez, enfin, il y a du sel, hein, tout ça, dans tout ça. Donc, ça va être adapté en série.
Trois ans, elle a 3 ans de recherche pour écrire le livre.
Ah oui, mais je comprends. Enfin, je l'imagine sans problème.
Voilà. La fille de Dominique Lapierre, Alexandra Lapierre, qui était un écrivain et philanthrope français. Elle a fait des études à la Sorbonne. Elle est partie aux États-Unis boursière. Voilà. Elle a une grande carrière. Et elle est chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres depuis 2005, je crois, dans les années 2000. C'était écrivain que je ne connaissais pas. Merci beaucoup, Claire. Belle chronique pour ton retour.
Merci.
Ah, tu nous avais manqué. Allez, je vais vous parler de la Commune à Paris, la Commune 1870. Vous connaissez certainement cet épisode historique français. Une des personnes au cœur de cet épisode, c'était Louise Michel. Donc, je vais vous parler de ce livre « Louise Michel, la Vierge Rouge », un roman graphique de Marie et Brian Talbot, un couple, ou des frères et sœurs, je ne sais pas.
Peut-être les deux.
Ou peut-être les deux. Mais je ne suis pas sûr. Louise Michel, qui était une station de métro à Paris. Je ne sais pas si c'est toujours une station de métro ou pas. Voilà, de ce personnage iconique de l'histoire parisienne. Alors, ça raconte sa vie, mais ça commence par sa mort. On débute ce livre en 1905, lors du cortège funèbre qui est suivi par des milliers de personnes pour cette figure du militantisme féminin, mais aussi surtout du droit des peuples, de ce qu'on appelait surtout à l'époque le petit peuple. C'est l'une des figures de la Commune qui lui vaudra de se faire déporter en Nouvelle-Calédonie, où elle continue du coup sa lutte à côté des Kanaks. On l'envoie en Nouvelle-Calédonie pour qu'elle soit loin de la France, qu'elle arrête de parler de féministe, de parler de droit, de parler des droits de ce petit peuple. On l'envoie en Nouvelle-Calédonie et là elle va aider les Kanaks. Donc au bout d'un moment, allez, on la ramène en France. Elle croise des Algériens qui arrivent aussi en Nouvelle-Calédonie à cause de la colonisation, qui sont envoyés en Nouvelle-Calédonie. Donc elle se jura d'aller les voir jusqu'en 1905, où très fatiguée, malade, elle va les voir et au retour elle décède. Alors ce livre, c'est une écrivain connue anglaise dont j'ai perdu le nom et je n'ai plus le livre, il est dans le bureau à côté, je vais le chercher à la pause musicale, qui discute avec une de ses amies qui lui retrace son histoire. Donc elle avait rencontré Louise Michel, cet écrivain, lors d'une soirée pour parler d'utopie, parce que Louise Michel était une grande fan de science-fiction. Donc elles avaient passé une soirée ensemble, elles ne connaissaient pas vraiment sa vie, et voilà. Il est même dit dans ce livre, suivant les informations qui ont été retrouvées, qu'elle aurait écrit un scénario qui s'appelait 20 milieux sous les mers, et qu'elle aurait vendu pour 100 francs de l'époque à un certain auteur qui en aurait écrit un livre, mais rien n'est prouvé, je te promets. Donc elle correspondait avec Victor Hugo, elle lui envoyait des poèmes, elle lui a écrit de Nouvelle-Calédonie sur la vie, les rites des Kanaks, c'était un personnage central de l'histoire française. Hein. Voilà, donc on va suivre son histoire où elle ne cessera jamais de défendre les valeurs d'éducation, d'égalité, de progrès. On passe de victoire en fusillade, d'épreuve en moment de partage, d'espoir en désillusion. Donc c'est vraiment une histoire passionnante et pourtant parfois méconnue de cette femme généreuse. Habité de liberté, bien entendu. Et c'est un roman graphique qui est en noir et blanc avec un peu de rouge. C'est très minimaliste, mais ça se lit facilement. Et c'est un livre que je vous conseille. Mmh. Pour ce personnage, je ne sais pas si vous la connaissiez, Louise Michel.
De nom.
Voilà. Oui. Bon, c'est bien. Hein mais voilà. Vous pourrez en apprendre plus. Non, mais voilà, c'est bien pour en apprendre plus.
J'ai choqué des 20 milieux sous les mers, quand même.
Mais ça n'a jamais été prouvé, mais c'est une histoire qui revient. On la voit lire dans un livre, ce roman, où elle dit « Il y a des traces, comme quoi elle aurait pu, mais bon, rien n'est prouvé. Hein, » ouais. À mon avis,
Légende.
Mais ouais. C'est une jolie légende. Mmh. Mmh. Quelle heure il est? On a encore le temps, 25. Allez, on va arrêter d'évoquer les figures féminines et partir dans une fiction avec Pauline pour une auteure connue que je ne connaissais pas. Mélissa d'Acosta et son sixième roman, Les femmes du bout du monde. Et on va partir au camping.
Exactement. Ouais. Et pourquoi j'ai pris ce livre alors que la couverture est à chier et que le titre est vraiment pas terrible? Hein? On se demande. Parce que j'avais déjà entendu parler de Mélissa d'Acosta et je me suis dit, allez, faut que je me lance. Pourquoi pas?
La livre préférée des Français, c'était elle,
je pense, un truc. Ouais, voilà. En tout cas, je connaissais
non,
son nom.
Non, c'est Marie de Palais.
Non, Marie de Palais, c'est le deuxième livre. L'Osarien.
Donc voilà, je connaissais le nom, je me suis dit, allez. Je me lance, je regarde pas, je fais comme si je voyais rien.
Oui, tu opasses, tu
voilà,
passes la
couverture. Voilà, j'occulte.
Et alors?
Eh ben, écoutez, je pensais lire un Harlequin, un Barbara Cartland de 2020. Eh ben, j'ai été très agréablement surprise. Vraiment.
Ah.
Ouais.
Ah ben, ça fait plaisir. Ah,
bon, on s'était pas fait. Ne nous emballons pas, hein. Mais ça a été une lecture très agréable. L'histoire, elle est super bateau, c'est une parisienne, elle se sépare elle divorce de son mari parce qu'elle s'est mariée trop jeune, enfin elle est partie dans des habitudes un peu atroces, elle est couchée par-ci, par-là pour se faire souffrir, enfin bon. Et elle décide d'aller au bout du monde, donc le plus bout du bout du bout du monde qu'elle trouve, où elle pourrait quand même faire quelque chose.
La Lozère.
Ah, ça aurait pu.
Elle est platiste.
Alors non, c'est le sud de la Nouvelle-Zélande. Okay. Voilà, et donc elle va faire du woofing. Donc le woofing, c'est on t'héberge et en échange, tu travailles 4 heures par jour. Dans un camping au bout du sud de la Nouvelle-Zélande, et donc dans un camping géré par une mère et sa fille, qui doivent avoir 20-25 ans, les deux héroïnes, on va dire. Donc l'histoire, rien de bien fabuleux. Par contre, le fait que ça se passe dans le sud de la Nouvelle-Zélande, et ben pour moi, ça a été plein de découvertes, mais vraiment, plein de découvertes d'animaux, de paysages. Moi, je me voyais demain partir faire du woofing au camping du bout du monde de la Nouvelle-Zélande. Donc, si ce livre a un atout, c'est qu'il se lit très facilement. C'est agréable, l'histoire, on a envie de savoir ce qui va se passer, même si on devine assez vite, je ne vous le cacherai pas. Mais voilà, c'est une histoire de trois femmes qui est jolie, j'ai des femmes qui ont des forces, des faiblesses, qui sont intéressantes. Et c'est l'histoire aussi quand même de... Alors pas d'un pays entier, mais vraiment d'un tout petit bout de pays qui est à 2000 km de l'Antarctique. Quand je pense Nouvelle-Zélande, moi je pense pas à 2000 km de l'Antarctique. Donc rien que ça m'a touchée, qui est plein de voilà d'une faune et d'une flore incroyable.
Le sud de la Nouvelle-Zélande en fait est très froid.
Eh ben oui, il y a des là il y a des oui, on n'imagine pas ça quand on nous dit
le sud, on s'imagine.
Et du coup voilà, c'est une jolie histoire avec en plus plein de découvertes des traditions maoris, des traditions néo-zélandaises, d'un lieu finalement bon qui visiblement est quand même assez touristique, mais que personnellement moi les Catlins ou ce genre de choses j'avais jamais entendu parler, découvertes animalières. Donc ça a été une lecture assez chouette. Alors peut-être parce que j'avais des attentes basses, mais je ne suis même pas sûre que ce soit ça. Vraiment, il y a un petit quelque chose. Et puis les trois femmes qui font vivre ce livre sont touchantes. Elles ont toutes les trois un caractère particulier. On a envie de les connaître un peu plus. Elles sont sympathiques. La jeune fille qui gère le camping a une vraie force. Elle va se baigner tous les matins à l'eau pour retrouver les dauphins. Bon, c'est cliché, hein, vous allez me dire, mais... Je pourrais vous lire des passages fabuleux. Mais ceci dit, on y croit aussi. Donc voilà, en lisant ce livre, j'ai compris pourquoi j'avais souvent entendu parler de Mélissa d'Acosta, parce que si c'est bateau, si c'est classique, c'est par contre très agréable à lire, ça se lit tout seul, et je l'ouvrais avec plaisir tous les soirs. Et j'ai découvert plein de choses sur la Nouvelle-Zélande, ça a l'air d'être le sud de la Nouvelle-Zélande, absolument fabuleux, vraiment.
Ben merci, ça donne pas forcément envie de le lire, mais en tout cas tu l'as bien vendu.
Oui, parce que je voulais le défendre quand même, oui, parce que c'est pas complètement à jeter, loin de là. C'est une lecture agréable.
Et niveau vente alors, donc en janvier 2023, Mélissa d'Acosta figure dans le classement publié par Le Figaro des 10 auteurs français qui ont le plus vendu de livres en 2022. Attention, petit jeu chanson, petit jeu thème à choisir. Vous aimez bien ça.
J'arrête.
Elle a fini troisième en 2022. Troisième en France, derrière quels auteurs ?
Marc Lévy.
Non. Alors, il y en a un que je ne connais pas.
C'est que des Français ?
Il y en a un que je ne connais pas.
Ah, Murakami.
Non.
2022. Eh bien, il n'y a pas Lévy. Eh bien, c'est l'autre, alors. Musso.
Guillaume Musso, premier.
Bussy.
Guillaume Musso, premier. Le deuxième, c'est Joël Dicker.
L'affaire Harry Kéber.
C'est qui ? Il a fait quoi, Joël Dicker ?
L'affaire Harry Kéber, je crois.
Et la chambre 612 aussi, je crois.
D'accord, ok. Ouais. On apprend tous les jours avec vous. Je me rends compte que j'ai sauté ta chronique, Valérie. Mais c'est peut-être parce que j'ai juste marqué Valérie que je n'ai pas encore le titre ni l'auteur à cette heure-là.
Mais parce que quand tu veux parler de féminisme, le thème.
Après la pub. Ça sera après la pub.
Tu nous
mets
les Spice Girls, dis-moi, pour la pause musicale, au moins avec un thème comme ça.
Et ouais.
J'adore ce que tu as choisi. S'il te plaît.
Oh, j'ai choisi une chanson pour le retour de notre chroniqueuse préférée. Et on va écouter les Beatles.
Ah, bah tu te fais plaisir.
Oh,
bah,
Lovely Rita.
Même pas des femmes.
Her shoulder made her look a little like a military man. Lovely Rita, meet a maid. May I inquire discreetly, when are you free to take some tea with me? Rita!
Et voilà, l'album Sgt Pepper. Merci. Un petit Lovely Rita, de rien,
merci,
avec plaisir.
Merci Ludo, c'était trop mignon.
Allez Valérie, tu nous présentes quoi?
Bah, ce que tu veux.
Mais je ne sais pas ce que tu nous présentes, donc ce que tu veux toi.
Bah, écoute, peut-être une série de livres assez connus, parce qu'ils sont pas tout récents. Mais le premier de cette série, c'était « Les femmes qui lisent sont dangereuses ». Parce que le thème quand même du féminisme, comme je le disais avant, que le mâle dominant cisgenre hétérosexuel de quasi 50 ans m'ait coupé la parole.
Oh, il n'a rien demandé. Bam.
C'est le seul aujourd'hui.
Oui, mais c'est ça.
Justement.
Je ne dirai rien.
Donc oui, les femmes qui lisent sont dangereuses. Parce qu'il y a beaucoup de choix sur le féminisme. Et en fait, je n'ai pas trop eu le temps de lire. Donc j'ai lu un livre avec des images et ce livre il est assez chouette, donc il est coécrit quand même parce qu'il y a des images mais il y a aussi du texte par Laura Adler que vous connaissez tous,
oui,
puisque Ludo n'a pas préparé la bio, et donc Stéphane Bollmann qui est un auteur éditeur allemand qui certainement a d'autres talents mais je les ignore.
Les femmes qui boivent sont dangereuses, tu veux un peu de bière
s'il
Valérie
te plaît. Et en fait, donc, ils ont écrit une série de livres pendant que Ludo recherche sur Wikipédia.
Absolument.
Les femmes qui lisent sont dangereuses, les femmes qui écrivent sont dangereuses, et les femmes qui lisent sont encore plus dangereuses, je pense. Mmh. On doit être dans quelque chose comme ça. Et en fait, ce sont des livres où la première partie, on va parler de la condition de la femme qui lit, en fait, à travers le temps. Et la deuxième partie, ça va être des tableaux ou des photos. Des tableaux assez connus ou des photos pour ceux qui connaissent bien les photographes peut-être connus mais pour moi totalement inconnus où on voit des femmes en train de lire et en fait on a tout le temps une petite explication au pied de chaque œuvre sur la deuxième partie du livre et en fait chaque fois il y a un lien qui est fait entre donc les femmes et la littérature et comment en fait le fait d'avoir laissé les femmes dans l'ignorance et la soumission, en fait, ça les a empêchées d'avoir accès à la connaissance et à l'émancipation. Puisqu'on sait très bien que si on a accès à l'instruction, on se fait sa propre opinion, son esprit s'ouvre, on devient dangereux. Notamment, on devient dangereux aux yeux de ceux qui aiment dicter leurs règles. Et en l'occurrence, désolé pour les hommes cis hétérosexuels. Hein,
ils quasi sont contents.
Voilà, mais c'était à l'époque. Maintenant, ça a changé. Et voilà, donc l'instruction de ces femmes-là, elle devient dangereuse. Donc, lire devient dangereux. Donc, le titre éponyme, les femmes qui lisent sont dangereuses. Et c'est vrai qu'aussi, on va plus loin dans l'étude de ce pourquoi du livre. C'est quand on représente dans la littérature un homme qui est en train de lire, l'homme est toujours en train de lire, c'est toujours un homme sage, un homme sérieux.
Avec une pipe.
Alors, ça, c'est pas le...
Je me l'imagine comme ça.
Ah, d'accord.
Ouais, mais depuis qu'il n'y a plus le tabac...
Oui, c'est vrai, depuis qu'il n'y a plus le tabac...
Non, moi, j'imagine la moustache un peu frisante et...
Le grand fauteuil qui ressemble presque à un trône.
C'est ça, voilà. Par contre, la femme, elle, qui lit, ben, c'est plus pernicieux. Alors, soit elle va être frivole, elle va être...
C'est ma Bovary.
Ça, complètement. Elle va lire des choses un peu coquines, un peu suggestives, puisque les femmes sont dangereuses.
Je suis Marie d'Acosta au camping.
Exactement. Tu veux savoir ce qu'elle a fait au woofing? Tu veux savoir? Voilà. Eh bien, le lis pas. Ouais. Et donc, c'est vrai que depuis le Jardin d'Éden, même, elles sont dangereuses. C'est qui enfin, voilà, elles sont tentatrices, elles sont sensuelles, c'est pécheresse. Alors, pour contrebalancer la chose, on va les dessiner, on va les peindre nues en déesse. Parce que dès qu'on les habille, dès qu'elles ont un livre dans la main, elles deviennent savantes et sournoises. Bref, mes amis, soyons sournoises, restons-le et continuons à nous émanciper.
Oui.
Voilà.
Voilà.
Merci.
C'était court, mais parce que c'est une série de livres, c'est pas récent. Je crois que c'est 2018, le premier, c'est pas tout neuf. Mais c'est hyper intéressant quand même de voir que l'accès au livre quand même avait été interdit pendant longtemps. Ça, je donnerai la date quand je parlerai de mon deuxième livre. Mais c'est la représentation de la femme qui lit, il y en a plein et c'est pas pour rien. Ça montre quand même qu'à travers l'art, les femmes petit à petit ont commencé un premier combat qui était celui de l'accès justement à l'émancipation par la connaissance et par le fait de pouvoir sortir de la pensée unique qui était imposée par l'homme.
Alors Laura Adler, elle a été conseillère à la culture de 89 à 93, appelée par François Mitterrand. Une grosse carrière. Hein. Quand elle était jeune, elle est allée à France Culture au début des années 70. Juste avant, elle a failli se faire virer à 3 mois du baccalauréat de son lycée car elle était très frondeuse alors qu'elle a découvert Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Marguerite Duras.
Et mais on l'écoute encore à la radio, là, oui. Sur France Inter.
Alors on l'écoute encore à la radio. Là,
elle s'en va.
Elle s'en va, ouais, absolument. Oui. Et d'ailleurs, en janvier 99, elle est nommée directrice de France Culture. Ce qui tombe bien, car ça va me permettre de parler du prochain livre que va nous présenter Marlène.
Oh, la transition.
Oui, toi, tu sais pourquoi.
Elle avait l'œil qui pétillait, elle avait envie d'intervenir avant même la transition. Elle n'en pouvait plus.
Chef France Culture, trop bizarre. Oh, Simone de Beauvoir, trop bizarre.
Alors, Ilana Navarro pour le livre Gisèle Halimi, la faute. J'ai marqué la foreuse de troubles.
Alors, pas foreuse.
Foreuse, ça ne marche pas.
C'est un livre de bricolage.
Voilà, c'est tiré d'une série sur France Culture.
Non, mais hein? La foreuse de troubles.
Ah oui.
Pourquoi pas, alors.
C'est ça. N'importe quoi. Ouais, voilà, donc c'est tiré d'une série qu'on peut entendre encore sur France Culture, voilà. En podcast.
Voilà. Donc, transition, les femmes qui ont du bagou, qui sont audacieuses, qui parlent, qui l'ouvrent. Je sais pas comment on va dire ça autrement.
Qui n'ont pas leur langue dans leur poche.
Voilà, et qui défendent bon, outre ce que tu viens de dire, voilà, leur position, leur émancipation, qui défendent après leurs droits par le droit de disposer de son corps, le droit de disposer de ses biens, le droit de punir le viol, le droit de ne pas accepter le colonialisme, etc., etc. Donc là, on est Gisèle Halimi, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, et puis la polémique qu'il y a eu, puisque c'est une personnalité qui est décédée en 2020.
C'était une avocate.
Qui était avocate.
Une grande avocate.
Et qui était juive tunisienne, donc qui déjà, de par ses origines, a eu du mal à se faire accepter en tant que personne féminine. Puisqu'on la ramenait toujours à « mais vous êtes d'origine tunisienne ». Oui, mais j'ai été naturalisée. Voilà, donc notamment...
Oui, devoir se justifier chaque fois
tout
sur
le temps.
D'où elle vient.
Voilà. Donc c'est une personnalité qui a beaucoup défendu la cause algérienne. Et c'est justement à cause de ça qu'il y a des polémiques, puisque de par ses combats, il avait été proposé qu'elle soit panthéonisée. Excusez-moi. Mm-hmm. Voilà. Et en fait, ça a été refusé par le président actuel. Et elle a juste... Enfin, juste. On avance, mais elle a déjà reçu quand même un hommage aux Invalides en 2022 pour la Journée de la Femme. Voilà, qui a quand même mis en lumière un peu tout ce qu'elle a fait, et voilà, les causes qu'elle a défendues. Donc voilà, c'est un documentaire adulte. Et il est basé justement sur plusieurs interviews ou plusieurs éléments de ce qu'elle a proposé sur France Culture ou de ses justifications en tant qu'avocate justement de certaines affaires qu'elle a défendues. Pas que, parce qu'il y a aussi du coup des bribes d'interviews de son fils, de certains de ses proches, etc. Et ça retrace du coup voilà, les causes qu'elle a défendues. Ce qu'elle a voulu faire. Et donc, voilà, avec cette polémique dont je viens de parler au bout. Donc là, c'était pour présenter un peu tout ce qui est les femmes. Et finalement, moi, que ce soit les deux documentaires que j'ai présentés, on fait... La question, c'est... Est-ce qu'on réduit la femme à... Si tu n'as pas fait quelque chose d'exceptionnel, qui a été valorisé, qui a été communiqué, quelle que soit la période à laquelle tu l'as faite... Voilà, parce que maintenant, c'est plus simple qu'avant. Oh, OK. Est-ce qu'on est réduite à devoir, devoir toujours bouger, devoir toujours se battre pour être légale ? Bah, tu en as un peu parlé aussi, mais parce que là, le titre, la fauteuse de troubles, enfin, zut et flûte, quoi. On a le droit de défendre des causes sans passer pour...
Une fauteuse de troubles.
Ouais.
Oui, voilà. Le sous-titre n'est pas forcément hyper bien choisi.
C'est ça. Et si je reviens sur le documentaire... de tout à l'heure, c'est « Elles ont fait bouger le monde », mais en gros, on est... sont-elles obligées de vraiment bouger, de vraiment faire des actions pour que ce soit reconnu, quoi ? Ou alors après, pour revenir un petit peu sur le livre que Popo, toi, tu as présenté, c'est du coup, est-ce qu'on est réduit à... Une image un peu kitschissime et un peu réductrice de dans l'écriture ou autre. Voilà. C'est des questions que je me suis posées. Oui, je partage.
C'est pas de juste milieu quand.
Voilà.
Oui, est-ce qu'il faut être célèbre pour parler de la cause des femmes, quoi.
Exactement. Sachant que pourtant, il y a de plus en plus aussi, si on prend la littérature, puisque tu viens d'en parler, donc c'est bien aussi en transition, on peut jouer là-dessus, mais est-ce qu'il y a quand même pas mal maintenant d'autrices, voilà, de plus en plus.
C'est ce qu'on disait dans l'émission.
Moins connues peut-être que certains auteurs, mais en tout cas, il y en a de plus en plus, et si on regarde la production, maintenant, ça a même basculé, on a plus d'autrices que d'auteurs. Voilà. On peut s'interroger. Je profite de ce thème, hein, puisque voilà, j'ai pas du tout, j'ai pas, enfin voilà, c'est pas une vision, je veux rien imposer, mais je trouve que du coup les ce qu'on présente, ça, voilà, sans parler tout le temps de féminisme non plus. C'est quelle est la place de la femme sans que on soit obligé de dire le mot en féministe ou voilà ou voilà. À vous, mes chers collègues.
Non, mais c'est un beau débat. Non, moi, j'avais envie de. J'en profite, pour une fois que les femmes ont la parole dans cette émission.
C'est pour ça que je ne dis rien en tant qu'homme hétérosexuel de quasi 50 ans, alors que je suis plus près des 40 que des 50.
Oh, t'es beaucoup plus près des 50 que des
pas
40,
du tout.
Arrête tes conneries.
Absolument pas.
Et en plus, menteur. Homme blanc, cis, hétérosexuel de presque 50 ans et mythomane. Le cliché. Non, au départ, moi, je voulais parler d'Annie Ernaux. Je me suis dit, waouh, une femme, prix Nobel littérature. Et en fait, j'ai refeuilleté Se perdre, un livre qu'elle avait écrit qui me semblait jadis très, très féministe. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Déjà, c'est semi-autobiographique où elle raconte comment elle a été donc la maîtresse ou l'amante, je sais pas comment on dit, mais elle se revendique auteur et pas autrice. Mmh. Et comment, en fait, elle a tout, entre guillemets, malgré le fait que finalement ce soit elle la maîtresse plus âgée d'un homme puissant, russe. Enfin, on s'imagine qu'il y a une sorte de entre guillemets, c'est elle qui devrait avoir le dessus, puisque c'est elle l'autrice, c'est elle qui raconte l'histoire, et c'est elle qui va raconter cet homme. Et en fait, on se rend compte que, pas du tout. Elle se perd, elle s'égare, elle n'arrive plus à écrire. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment autobiographique ou si c'est romancé façon autobiographie, mais on en revient à ce que disait Marlène, en fait, c'est que même des femmes qui sont aujourd'hui, enfin, c'est-à-dire l'année dernière, 2022, mises sur le devant de la scène pour. Parce qu'elle, là, c'était pour l'ensemble de son œuvre, elle, son prix Nobel de littérature. Pour moi, il manque encore quelque chose. Enfin, c'est,
Et puis, enfin, moi, combien de fois j'ai entendu quand ils ont annoncé Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, mais qui c'est celle-là, ouais, et pourquoi elle est prix Nobel de la littérature, on ne la connaît pas. Enfin, ça a été. Bizarre la réaction des gens, alors que. C'est troublant.
Il y a un travail à faire. Après, il y a beaucoup de travail qui est fait justement pour faire découvrir toutes ces femmes, toutes ces inconnues, notamment le CIDF qui avait fait une super expo sur les femmes aventurières, mais on en entend beaucoup moins parler. On va entendre parler des hommes aventuriers et toutes ces femmes, en fait, mais sans faire du prosélytisme absolument pour la cause féministe, parce qu'il faut qu'il y ait une égalité. Justement, de traitement de tout ce qui est fait, sans dire qu'il faille faire des choses extraordinaires ou justement être culapraline pour exister. Pardon, Mélissa Dalloz.
Mais la pauvre.
Mais non, c'est pas gentil. Et voilà, mais c'est de trouver cet équilibre entre.
Après, pour revenir à ce que tu disais, c'est que ces femmes qu'on met en lumière maintenant, elles ont été effacées de l'histoire. C'est pour ça que maintenant, on les ressort. Les livres qu'il y a actuellement sur les grandes femmes de l'histoire, c'est tout simplement parce qu'on ne les étudie pas, on ne les apprend pas, parce qu'elles ont été effacées, comme en musique, en culture, en littérature, en aventure, dans tout. Donc on essaye, c'est une bonne évolution quand même, on essaye de rattraper ce retard.
Oui, après, il y a eu du retard aussi parce que les femmes n'ont pas eu accès à la même éducation que les hommes. Donc,
non, mais aussi, oui. Voilà. Mais même en l'ayant, elles ont quand même été effacées des livres parce que c'est les hommes qui écrivaient, d'une certaine époque, qui écrivaient ça. On a fait une émission il n'y a pas longtemps sur les femmes dans la musique notamment classique, 18e, 17e, 19e. Et le nombre de femmes connues.
Proche de zéro.
Et proche de zéro, alors la sœur de Mozart, la femme de Schumann, enfin il y en a.
C'est la sœur
mais
la femme.
Oui, mais c'est la femme de.
Mais même,
la sœur de.
Même ça, elles ont écrit des pièces, on ne connaît pas leurs pièces, on ne les connaît pas. C'est oublié. Donc là, petit à petit, il y a des gens qui les remettent au devant de la scène et c'est tant mieux.
Ouais, non, mais c'est.
Mais merci beaucoup.
Bah oui. Hein? On parle même pas de Virginia en fait.
Ah oui, allez, ah oui. Valérie, tu as un autre livre à nous présenter.
Mais vite fait, allez, je ferme les notes.
Non,
je
non, mais on a le temps, on a encore 12 minutes.
Non, mais
si
c'est juste pour parler justement de Virginia Woolf qui pour moi quand même était le un peu aussi la une racine, enfin un pilier de ce que le féminisme la littérature doit à Virginia Woolf, c'est notamment, je suis en train de rechercher mes notes, j'ai dit que je le faisais sans notes mais j'en suis incapable, sur son livre Une chambre à soi, où elle raconte en fait son arrivée dans une grande université, donc en Angleterre. Alors elle l'écrit à la troisième personne en disant qu'elle est quelqu'un d'autre, mais on pense bien que c'est elle qui arrive là, et elle arrive dans cette université anglaise. Donc il faut vraiment imaginer à l'ancienne, avec ses grosses pierres rouges, son grand parc, son grand jardin, et puis elle raconte comment elle traverse ce grand parc. C'est très long, une description à la Proust interminable, comme le chemin qu'elle parcourt pour arriver jusqu'à la porte de la bibliothèque. Et la porte de la bibliothèque donc va jamais s'ouvrir, va lui être interdite parce que non seulement elle est femme, mais en plus elle n'est pas accompagnée d'un homme. Et donc du coup, elle se retrouve contrainte à devoir attendre dans sa chambre, attendre que les hommes avec qui elle doit converser aient fini de manger, parce qu'ils ne peuvent pas évidemment bien réfléchir s'ils n'ont pas la panse pleine. Mais c'était vraiment ça. Et en fait, elle est dans sa chambre et c'est un peu comme le bureau de tabac de Pessoa. Après, en fait, tout le roman, enfin toute l'histoire, va se passer depuis donc sa chambre à elle. Le titre, c'est Une chambre à soi, et où elle va nous raconter en fait tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle observe, et ce qu'elle observe, elle va faire un parallèle en fait avec tout ce qu'elle n'a pas accès en tant que femme. Mais malgré tout, c'est raconté sans animosité, sans regret, sans haine, puisqu'elle va parler de sa passion pour Shakespeare, pour des auteurs mâles blancs, si genre de moins de 50 ans. Voilà, et elle va parler de tout ça, et c'est très beau, et c'est une femme qui dans sa vie a été, enfin je veux dire, elle vivrait aujourd'hui en 2023, elle passerait inaperçue, mais il faut remonter quand même dans le temps et se dire qu'à un moment donné, bon, elle a eu une amante, je crois que c'était début des années 20, enfin voilà, elle a quand même eu une vie qui pour l'époque était un peu subversive, et en termes de littérature, tout ce qu'elle a écrit c'était quand même assez prodigieux. Voilà.
Moi, j'ai un dernier petit conseil de lecture à donner. Ça s'appelle L'aviatrice de Paula MacLean. C'est sur Beryl Markham. C'est la première femme. Ça m'est revenu en fait en cours d'émission. C'est la première femme qui a traversé en avion d'est en ouest l'Atlantique. Donc c'était un exploit à l'époque, il y avait très peu d'hommes déjà qui le tentaient, et c'est une belle histoire, ça se lit bien. Elle est née dans une famille de colons au Kenya, elle est britannique à la base, elle a une vie complètement incroyable, très très libre, elle grandit avec les enfants, j'ai oublié l'ethnie du coin, mais elle grandit avec les enfants africains, et... voilà, l'âge adulte, elle aussi, elle conduit, elle fume, elle a des tas d'amants. C'est d'ailleurs un de ses amants qui l'initie à l'aviation. Et avant ça, c'est une grande dresseuse de chevaux. Voilà, c'est très bien écrit. Il faut imaginer, l'imaginer sur son cheval, courir au galop à travers les plaines kényanes sous fond de c'est comment la montagne là-bas, là ? Parce qu'elle est juste en dessous, là.
Au Kenya ?
Oui,
le mont.
Oui, c'est
le Kilimandjaro.
Oui, c'est le Kilimandjaro. Oui, tout à fait. Voilà, donc elle est pas loin de ça. Voilà, c'est les décors sont très bien écrits. Et, c'est une histoire vraie. Et elle a quand même fait quelque chose d'assez incroyable pour l'époque. Alors, on connaît les Lindbergh, on connaît, les autres. Mais Beryl Markham, on la connaît pas.
C'est vrai.
Voilà. Et lisez ce bouquin, c'est vraiment sympa à lire.
Ok, merci. Valérie, tu cherches quelque chose ?
Non, je recherchais des passages d'une chambre à soi de Virginia Woolf, mais le mieux, c'est encore de le lire.
Ouais. Voilà, très bien. Merci, jeune femme hétérosexuelle blanche de moins de 50 ans d'avoir participé à cette émission. Sachez que c'est l'avant-dernière de l'année. Et oui, déjà. Ah, on va bientôt être en vacances, mais on a une dernière surprise où on va vous parler de prix. Le prix littéraire, ce sera la prochaine émission.
On pourrait faire un jeu avec dans la prochaine émission.
Écoute, on y réfléchit, on en reparle, d'accord ?
Je cache toutes les années.
Oui, et les gens doivent deviner qui est né en quelle année.
En fait, on le sait, on a déjà échangé.
Mais nous, on sait, mais les gens qui nous écoutent.
Oui, mais il y a un truc qui s'appelle Google et en deux secondes, il le trouve, Valérie. Ce n'est plus un jeu.
On demande aux gens de ne pas tricher.
Ah, d'accord, voilà.
On a aussi le droit de se faire confiance.
Voilà, on va vous dire, on va vous présenter les livres, les prix littéraires de nos années de naissance.
Oui.
Voilà, dans la prochaine émission.
Mais pas tous les prix littéraires, il y en a trop.
Mais pas tous les prix.
T'as sélectionné quoi, du coup ?
Un par personne.
Non, quatre ou cinq prix littéraires de chaque année.
Oui, mais lesquels?
Mais après, ça dépend s'ils étaient encore édités ou pas.
Tu en as trouvé en 1991 pour mon année de naissance.
Bien sûr. Bien sûr, sachant que toutes les deux, nous allons devoir faire la même chose, ma chère.
Ah, tu es si jeune, toi.
Moi, j'en ai plein en 1986.
Joël Batz, gardien de ma vie.
Mais ouais, c'est ça.
Il n'a pas été prédité, mais bon.
Si. Il a eu le prix Panini.
Si, par France Football.
Oui, Football, prix Panini.
Non, mais moi, je suis sur le haut du panier des prix littéraires quand même.
Allez, on verra ça dans un mois. Merci beaucoup. Et comme dirait l'autre,
au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.